franceinter.fr.
À la une de la science, le rythme biologique de nos organes.
L'Assemblée Nobel à l'Institut Karolinska a décidé aujourd'hui d'attribuer le prix Nobel 2017 de physiologie et de médecine à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach et Michael W. Young pour leur découverte sur les mécanismes moléculaires qui contrôlent le rythme circadien.
C'était en octobre dernier à Stockholm, des chercheurs américains étaient récompensés pour leurs travaux sur le rythme circadien, l'horloge biologique humaine réglée sur un cycle de 24 heures. Mais en plus de cette horloge centrale, chaque région du corps, chaque organe dispose aussi de sa propre horloge. C'est ce qui ressort d'une étude beaucoup plus récente, elle, de l'équipe de l'INSERM. Les résultats sont publiés dans la revue Science et on en parle, Agnès, avec notre invité.
Howard Cooper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM. Vous dirigez une équipe sur la chronobiologie et les désordres affectifs. Et dans cette étude, donc, vous montrez que chaque organe, voire chaque tissu du cerveau, ont leur propre horloge biologique, en tout cas chez un primate. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la connaissance du rythme circadien, des rythmes circadiens même, pourrait-on dire ?
Oui, c'est nouveau dans le sens qu'on a pu montrer que pratiquement chaque tissu, chaque organe, même chaque cellule possède son propre horloge et toutes ces différentes cellules s'expriment sur un rythme de 24 heures. Mais ils s'expriment pas à n'importe quel moment et c'est exprimé à des moments très précis de la journée selon l'organe et selon la fonction.
D'accord, donc ça vous avez pu voir donc que par exemple il y avait des pics d'activité, c'est ça, pour certains gènes, pour dans certaines parties du corps?
Il y a des pics d'activité très très précis, c'est pas à n'importe quel moment. D'abord, on a pu étudier les 25 000 gènes du primate non humain, c'est exactement le même nombre que possède l'homme, et on a pu montrer qu'une grande majorité de ces gènes, à peu près 80%, sont exprimés selon un rythme très très spécifique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que chaque organe exprime un rythme à un moment précis de la journée. La plupart de ces gènes sont exprimés pendant le jour, en début de journée et en fin d'après-midi, parce que nous sommes des animaux diurnes, contrairement aux animaux nocturnes, où il y a, comme la souris, où ces rythmes sont exprimés principalement au cours de la nuit ou de façon un peu aléatoire par rapport à un pattern d'expression qui est très précis chez le primate.
Donc là, le rush, donc c'est fin de matinée et fin de journée, c'est ça?
Début de matinée et puis fin d'après-midi. Par exemple, il y a plus de 11 000 gènes qui sont exprimés en fin d'après-midi, comparé à moins de 700 qui sont exprimés en début de nuit, au moment qu'on s'endort, par exemple.
Mais pour bien comprendre, ce sont des gènes importants. Vous dites par exemple qu'il y en a qui servent à l'entretien de la cellule, du métabolisme, qui servent aussi à la réparation. Donc c'est important de savoir à quel moment ces gènes-là sont plus actifs, entre guillemets.
Alors, ces gènes qui sont un peu ubiquitaires, exprimés partout dans tous les organes, il y a à peu près 11 000, 96% sont rythmiques. Pas dans les mêmes tissus, mais il y a au moins 96% qui sont rythmés au moins dans un tissu. Mais c'est facile à comprendre parce que il faut que ces processus cellulaires de réparation, de métabolisme soient entretenus de façon précise, optimale pour chaque cellule. Dans les organes, les nombres de gènes qui sont rythmiques diffèrent. Certaines régions, comme le cortex préfrontal, le gland thyroïde ou l'estomac, il y a plus de 3000 gènes qui sont rythmés. Dans d'autres organes, il peut y avoir moins de 200 gènes qui sont rythmiques, par exemple dans la moelle osseuse, le tissu adipeux ou certaines régions du cerveau.
Et c'est la première fois qu'une étude explorant l'horloge biologique est menée chez une espèce aussi proche de l'être humain ?
C'est la première fois. Ces études ont déjà été réalisées chez le drosophile et aussi chez la souris, mais c'est la première fois que c'est réalisé chez nos plus proches cousins, le primate non humain. Et ce que ça montre en partie, c'est que chaque tissu et chaque organe exprime possède sa propre signature en termes d'expression et d'identité génique. Quel gène et à quel moment et combien de gènes sont exprimés. Et encore une fois, on était assez surpris de voir que c'était très différent de ce qui se passe chez la souris. Par exemple, dans le cœur ou dans le foie, c'est pas les mêmes moments que les gènes sont exprimés, et c'est pas les mêmes gènes et c'est pas le même nombre de gènes, donc très différent.
Ce qui paraît étonnant, c'est qu'effectivement le parallèle entre un rongeur, même s'il s'agit d'un mammifère, mais qui a un rythme de vie très différent de l'humain, puisque il ne dort pas en une seule fois. Souvent, ce sont des moments de plus espacés. Souvent, ce sont des animaux aussi qui vivent la nuit et pas le jour. Donc, ça n'est pas si étonnant de se dire que ce n'était pas le meilleur modèle pour comprendre ce qui se passe chez nous, les êtres humains.
Ça dépend de la question qu'on pose. On peut faire chaque modèle d'animal a son avantage et ses inconvénients. Et on peut faire certaines manipulations chez la souris pour répondre ou connaître certaines fonctions de base qui sont impossibles à faire chez l'homme ou chez le primate.
Alors, ça nous permet de comprendre comment ça marche, mais Agnès, ça peut aussi aider pour des nouvelles thérapies, peut-être aussi.
Oui, par exemple, Howard Cooper, on a vu que, enfin, des expériences ont déjà montré que, par exemple, la cicatrisation est plus ou moins longue selon qu'on s'est blessé durant le jour ou la nuit, que des patients opérés du cœur connaissent moins de complications s'ils sont opérés l'après-midi plutôt que le matin. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui relèvent justement de ces phénomènes que vous expliquez, de l'horloge biologique propre à chaque région du corps.
Oui, tout à fait. On sait que, par exemple, certains traitements médicaux sont plus efficaces s'ils sont administrés à certains moments de la journée. Ceci est vrai pour les cancers. C'est vrai dans une étude qui a été publiée récemment sur les opérations cardiaques que vous avez citées par une équipe à Lille. Mais une chose qui nous a surpris, c'est que aux États-Unis, l'administration de Food and Drug Administration a défini les gènes qui sont les cibles pour certains médicaments. Et on a trouvé que 82% de ces gènes cyclent. Donc ce qui veut dire que ça semble normal de tenir compte de quand est-ce que les gènes sont exprimés et les protéines transcrits pour savoir à quel moment tel ou tel médicament doit être utilisé. Actuellement, il y a assez peu d'études qui tiennent compte d'une notion de temps.
Autrement dit, aujourd'hui, peut-être que l'on prend des médicaments qui, si on les prenait une heure avant ou une heure après, auraient beaucoup plus d'effet sur l'organe qu'ils sont censés toucher.
Tout à fait. Par exemple, une autre étude aux États-Unis a montré que les 10 médicaments les plus utilisés, ça concerne par exemple cholestérol, l'asthme, la dépression, ne sont efficaces que dans 1/4, voire 1/50 patients. Et une des raisons pourrait être que peut-être qu'ils ne sont pas administrés au bon moment.
Mais la chronothérapie, justement, qui consiste à administrer un médicament au meilleur moment, ça existe déjà, Howard Cooper?
Tout à fait, et heureusement, il y a quelques études qui vraiment ont marqué ce domaine. Tout d'abord, l'équipe de Francis Lévy à Paris, qui étudie l'administration de certains médicaments pour traiter des cancers, a montré que si on affine l'heure de l'administration de certains médicaments, c'est beaucoup plus efficace que de donner un temps aléatoire, disons. Ça optimise l'efficacité, ça diminue les effets négatifs.
D'accord.
Et une étude assez vaste qui a été faite en Australie pour d'autres médicaments qui traitent cholestérol, l'hypertension ou des drogues anti-inflammatoires, qui parvient à la même conclusion. L'heure à laquelle est donné tel et tel médicament est cruciale pour définir l'efficacité.
Une piste à suivre, donc. Merci, Howard Cooper et Agnès. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'alcool multiplie par 3 les risques de démence. C'est ce qui ressort des travaux d'une équipe de l'INSERM. Ils ont étudié les données des hospitalisations en France entre 2008 et 2013. Pour 57% des cas de démence précoce et 8% de celles survenues après 65 ans, ils ont identifié une consommation excessive d'alcool, soit au moins 6 verres par jour pour les hommes et 4 verres pour les femmes. Dans leur étude parue dans The Lancet Public Health, ils recommandent de renforcer la prévention contre l'abus d'alcool. C'est une première en astronomie. Les toutes premières phases d'une supernova, autrement dit de l'explosion d'une étoile massive, ont été observées. On doit cette grande première à un astronome amateur, un Argentin, alors qu'il testait un télescope nouveau de 40 cm de diamètre. 40 cm seulement, il a vu un objet apparaître dans une galaxie, la galaxie de constellation du sculpteur, à 65 millions d'années-lumière de nous. Un objet dont la luminosité s'est multipliée par 3 en une demi-heure. Les observations du chanceux amateur astronome se sont avérées compatibles avec ce que prévoyaient les simulations informatiques des scientifiques. L'étude est publiée dans la revue Nature. Que se passait-il vraiment il y a 2200 ans au Plutonium, un site romain dédié au roi des enfers Pluton? Des animaux y étaient sacrifiés par un procédé qu'on disait miraculeux. À peine pénétraient-ils dans l'enceinte qu'ils mouraient sans avoir été touchés, tandis que les hommes qui les accompagnaient, eux, ressortaient indemnes. L'explication vient d'être apportée par la revue Archaeological and Anthropological Science. Ces temples étaient dressés sur des failles dégageant du dioxyde de carbone qui formait le matin un brouillard flottant au-dessus du sol. Les animaux l'inhalaient, mais pas les hommes, trop grands pour que le gaz atteigne leurs narines.